Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris Île-de-France. Le PSG, champion d'automne, bon, c'est déjà ça de prix, après la victoire hier soir face à l'Olympique Lyonnais. Pour en parler, pour évoquer pas mal d'autres sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Sohan, animatrice radio.
Bonsoir, ravi d'être là.
Du PSG,
ah ben oui, quand même.
On peut le dire. François Bessène.
Bonsoir.
Supporter historique du PSG.
Supporter, voilà.
Ça va nous servir en dernière partie, ce côté historique. Le sommaire, avec cette victoire hier convaincante face à l'Olympique Lyonnais, avec enfin un grand Désiré Doué et une nouvelle interruption de match au Parc des Princes. Le débrief de cette rencontre en première partie. Neymar manque-t-il au PSG? C'est la question qu'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Retour sur l'interview accordée hier par le Brésilien à nos confrères d'RMC Sport. Et puis l'instant nostalgie avec Gabriel de la boutique hashtag Paris qui viendra en plateau nous exposer les maillots les plus mythiques de l'histoire du PSG. François et Sohan ont déjà les yeux qui brillent.
Ah, mais là, c'est exceptionnel.
Et puis, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisport. Cop Paris, c'est parti. PSG Lyon, un joli cadeau de fin d'année au Parc des Princes face à des Lyonnais qui étaient sur une belle dynamique, un choc qui a tenu ses promesses mais que le PSG a très vite assommé. On va revoir les images du show, notamment Désiré Doué, 8e minute, l'ancien Rennais se joue de Maitland Knights pour aller servir sur un plateau Ousmane Dembélé, auteur de son 6e but de la saison en Ligue 1. Doué, quelques minutes plus tard, qui obtiendra un pénalty pour une faute de Corentin Tolisso, pénalty transformé à la Neymar. On en reparlera également par Vitinha. L'OL qui revient avant la pause sur un petit numéro de Ryan Cherki qui sert Mikotadze, dont la finition, le petit ballon piqué, n'a pas vraiment plu à Donnarumma. Et puis le PSG s'imposera finalement 3-1 grâce en fin de match à la deuxième réalisation cette semaine de Gonçalo Ramos. Sohan, François, de manière globale, ce PSG vous a-t-il convaincu hier soir?
Ah bah oui, quand même. 30 premières minutes excellentes, je pense que tu l'as vu. Un bon match, mais un très très bon début de match. Ça fait du bien de voir Paris comme ça. Je pense, et c'est vrai que beaucoup le disent, que la dernière fois qu'ils ont joué comme ça, c'était au Vélodrome en octobre.
Oui,
et donc ça fait plaisir. Vraiment, c'était un vent d'air frais, quoi. Du moins les 30 premières minutes.
La comparaison est intéressante avec le match au Vélodrome parce qu'effectivement, pendant 20-30 minutes, quasiment une mi-temps, le PSG est largement au-dessus. Après, on éteint un petit peu la lumière.
Bah, on est à minima rassuré de voir qu'on marque des buts. Ça faisait un moment qu'on avait du mal à marquer des buts. On se crée toujours beaucoup d'occasions. Ce qui est compliqué quand même, c'est que c'est 30 minutes et rideau.
Ouais.
Ce qui est dommage. Alors, il y a la trêve qui va arriver quand même. Là, il reste deux matchs. Monaco, on va en parler après. Et il doit y avoir un match. Et il y a le match à Lens en Coupe de France.
Exactement. Dis-moi.
Après la saison, voilà, cette partie-là est terminée. Donc, les joueurs vont également se reposer. Il y a de plus en plus de matchs. Il y a beaucoup plus de matchs de Ligue des Champions.
Ouais.
Maintenant, la question, c'est est-on capable de faire le même match, ces 30 minutes très intéressantes, et offensivement et défensivement, mais sur 90 minutes.
Ouais. Et en Ligue des Champions, si possible.
Mais même en championnat, en fait. Ouais. Parce que, oui, on a des chances d'être champion, mais ce que les supporters ont envie de voir, c'est une équipe qui présente de la constance, déjà sur la saison, mais également sur un match entier.
On a des chances, effectivement, d'être champion. On va voir le classement avec le PSG qui a désormais 7 points d'avance sur Marseille et Monaco, qui ont fait respectivement match nul ce week-end. Monaco-PSG, tu le disais d'ailleurs, François, mercredi, en match avancé de la 16e journée. Est-ce qu'on peut dire que si le PSG s'impose en principauté, c'est plié, quasiment plié?
Je pense que oui. Je pense pas qu'ils seront invaincus, à mon avis. Ils peuvent perdre un ou deux matchs, mais à mon avis, s'ils gagnent à Monaco, enfin face à Monaco, c'est 10 points.
Ouais.
Donc il y a un vrai écart quand même. Moi, je mise beaucoup, mais ce serait pas une énorme surprise, quoi. Enfin, je pense.
Est-ce que le PSG peut terminer champion? Ça, je pense que tu vas me répondre oui. Est-ce
que
le PSG
je pense que c'est déjà le cas. Hein,
mais... Est-ce qu'on peut avoir les invincibles cette saison en Ligue 1?
Bah, le niveau de jeu qu'on a affiché face à au Cador, ce qui n'était pas le cas d'habitude. D'habitude, on était en souffrance, peut-être parce qu'on n'avait pas franchement la motivation nécessaire face à Lyon. Lyon nous a souvent battus.
Oui, c'est vrai.
Même face à Marseille.
La saison du record, je crois que c'est 28 pour le PSG, avait été stoppée par l'Olympique Lyonnais.
Exactement, à Lyon. Je pense que le niveau de jeu et la motivation qui est affichée font qu'on peut penser qu'on va le faire. Maintenant, on a perdu des points face à Auxerre, face à Nantes.
Ouais.
Tu peux avoir un corner fin de match, pas de bol, bim, but.
Oui, oui.
Alors oui, il y a tout ce qu'il faut pour être invincible, mais ça fait 10 ans qu'il y a tout ce qu'il faut pour être invincible.
Un petit peu contre Nantes, on voyait le but en fin de match des Nantes.
Ah, l'habitude du Paris Saint-Germain.
Et ça reste le PSG, ils sont imprévisibles. Ouais, ouais. Enfin, franchement, vraiment imprévisible.
On va passer au top flop de ce PSG Lyon et sans grande surprise, notre MVP se nomme Désiré Doué. L'ancien René sort d'une semaine très aboutie, buteur passeur à Salzbourg, passeur décisif et penalty obtenu hier face à Lyon. Est-ce qu'il est enfin lancé, notre Désiré?
Oh, je pense que oui. Le début de saison était très compliqué, hein.
Ouais.
Vraiment très très compliqué. Et là, à mon avis, c'est un peu libéré. Il a pris confiance, il a pris en assurance aussi, ça s'est vu sur le terrain. Passe décisive, puis il crée le pénalty. Mmh. Franchement, grand bravo à lui.
Ouais. Grosse première demi-heure, match de Désiré Doué. Il y a même un but refusé qui est magnifique.
Ah bah c'est sûr que par rapport au début de saison, mais après, c'est un très jeune joueur, il a 19 ans. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent d'attendre autant de si jeunes joueurs. Oui, il a signé contre un gros chèque, mais ce n'est pas le montant du chèque qui fait la maturité d'un jeune joueur.
Il fallait le sortir ce match-là et avoir cette dynamique-là, parce que si l'on reparle de jeunes joueurs achetés pour un certain montant, on peut repenser à Hugo Ekitike.
Attention, il fait 45 minutes. Hein. Ouais. La deuxième mi-temps, ce qu'il en a joué, beaucoup plus compliqué, mais comme l'ensemble du collectif. Donc, il fait une très bonne première mi-temps, il fait un très bon match à Salzbourg. Donc, maintenant... J'avais pas envie de le critiquer avant, j'ai pas envie de l'encenser ce soir.
On va écouter ce qu'on pense Luis Enrique, et on va ensuite se projeter sur les perspectives de Désiré Doué cette saison. Luis Enrique, tout d'abord.
Il est dans la lignée de ses quatre derniers matchs. Désiré nous apporte de plus en plus. C'est un jeune joueur de 19 ans à peine. Et je suis content de tous les joueurs de l'effectif.
En ce sens, je suis très content avec tous les joueurs de la plantilla.
Alors juste rapidement sur Désiré Doué, quelle perspective? Tu as un petit peu défloré le sujet, il est dans la rotation, ça peut être un joueur de concurrence à Bradley Barcola, plus que ça?
Moi je pense que de toute façon, Luis Enrique est un entraîneur qui aime faire tourner sa composition, voire même son schéma de jeu. C'est un joueur qui maintenant intègre la rotation, avant c'était un joueur de remplacement. Ouais. Maintenant c'est un joueur qui de plus en plus peut être amené à devenir titulaire. Donc plutôt que dire c'est le titulaire, je pense que au PSG... Et finalement, je trouve ça très bien. Il n'y a pas un titulaire.
Ah ben
il y a des titulaires, des aspirants.
On l'a vu
titulaires.
Avec Bradley Barcola. A-t-il été sanctionné, entre guillemets, d'une certaine méforme, ménagé il y a
peut-être. Pour moi, il n'a pas du tout été sanctionné. Comme tu as dit, il y a une vraie rotation. En fait, il fait tourner Barcola et jeune aussi. Il a 22 ans, moins bon dernièrement. Donc, il le laisse se reposer sur le banc. Il n'y a pas de sanction. Et Enrique a dit dans une interview après le match qu'il privilégie le collectif. Il s'en fout de l'individuel. Ouais, le PSG, ce n'est pas un joueur. Ce n'est pas un ancien Mbappé. Ce n'est pas un joueur. C'est le collectif. Donc il tourne, c'est normal.
Le petit flop de ce PSG Lyon, on va passer rapidement, mais moi j'ai trouvé la scène assez cocasse, voire pas très classe. La réaction de Didio Donnarumma sur le but de Miko Tadze, ça traduit quelque chose ou c'est anecdotique?
Non, ça traduit une frustration, je pense, de Donnarumma. Surtout que, en plus, il s'est excusé, le joueur lyonnais, et il n'aurait pas dû s'excuser. Ouais. Il a juste souri.
À la mi-temps, il a été le voir, il y a eu un petit câlin, explication de texte.
Il a souri. Ouais. En fait, il marque. Enfin, c'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Et je pense que Donnarumma est frustré le fait d'être resté sur le banc alors qu'il était vraiment le leader des gardiens au Paris Saint-Germain. À mon avis, il a une forme de frustration en lui qu'il exprime de manière pas classe. Quoi.
Ouais. Je pense qu'il faut comprendre la solitude du poste de gardien de but. Le mec lui met.
Surtout au PSG.
Au PSG. Le mec lui met une balle piquée et après, il vient le chambrer.
Oui, on connaît le caractère. Donnarumma,
Et Donnarumma l'a pas poussé méchamment.
Il était quand même un peu en colère.
Oui, mais à la rigueur. Mais moi, je préfère avoir des joueurs en colère quand ils se prennent une pichenette et qu'ils disent non, à moins que tu ne fais pas ça.
Donnarumma, il est aussi en colère, François, parce qu'il prend un but sur sa première occasion.
Bah oui.
Oui, parce que sa défense, surtout, cadre extrêmement mal. Que tu as trois joueurs qui cadrent mal. Alors, Cherki fait une passe magnifique, mais tu as sa défense qui te laisse.
Crie sur ta défense alors. Crie pas sur le joueur qui a marqué, c'est son job.
Oui, mais les deux, franchement, c'est pas bien méchant.
Mais après,
il y a quand même pas mal d'insultes.
Mais c'est pas très classe.
Il le pousse pas trop, franchement.
Il aurait pu prendre peut-être plus.
Je suis d'accord.
Oui, mais ça montrerait le niveau des arbitres français, si je peux me permettre.
Ça, c'est un autre débat. Tiens, un autre débat qui va te plaire, François. L'autre flop qui nous vient des tribunes cette fois-ci. On va revoir en image l'interruption pendant quelques minutes en deuxième période de ce PSG Lyon. Alors, suite à des chants insultants envers les Lyonnais émanant de la tribune Auteuil, les joueurs Vitinha, on les voit, Hakimi, capitaine hier soir, sont partis devant la tribune pour demander aux supporters de stopper ces chants. François, je sais qu'il sera tranché ton avis sur cette problématique.
C'est une tartufferie. Je vais essayer de faire très court et heureusement que j'ai pas écrit, j'ai pas préparé ce que j'allais dire parce que j'aurais beaucoup à dire. C'est guignolesque. Il y a un dicton qui dit que le poisson pourrit par la tête. Et objectivement, quand on voit la décrépitude de la Ligue de football professionnel, qui a été perquisitionnée par le parquet national financier jusqu'au domicile de ses dirigeants, un football qui est non visible, c'est quand même important de le rappeler. Et je trouve que c'est facile d'aller taper sur les supporters.
Mais
j'y vais. C'est tellement facile de taper sur les supporters. Ouais. Déjà, je trouve que c'est bien. Quand ils ont tapé du poing sur la table sur les chants homophobes, je trouve que c'est bien.
Ah bah évidemment.
Il y a une évolution.
On n'est pas dans le cas.
Non, mais c'est important de le dire.
On parle de chants insultants. On l'a vu sur l'écran.
Et c'est très, très important de le dire. Ouais. Et je trouve que ça, c'est une évolution, il faut la souligner. Cependant, j'aimerais que la Ligue ait le même courage lorsque des clubs ne respectent pas, par exemple, la journée contre l'homophobie. C'est facile de toujours dire les supporters de foot. Et eux, par contre, c'est la fête. C'est la fête. On ruine le foot français, on tue des clubs. Quand il y a des atteintes homophobes, ce joueur, faut comprendre. Ah, ce club, il a pas eu le courage. Donc, c'est toujours sur les supporters. Donc, à un moment, particulièrement Paris et Marseille.
Sur le plateau de Cop Paris, sur les supporters de Paris
Saint-Germain. Paris et Marseille.
Saison, on a vu beaucoup de scènes similaires dans d'autres stades. Je pense au Vélodrome, mais également à Angers, au Havre, ces dernières semaines.
J'ai hâte de voir Saint-Étienne quand même. Est-ce que Saint-Étienne, ils vont l'interrompre?
Moi, ce qui m'a dérangé, c'est de voir Hakimi et Vitinha quitter mentalement leur match, aller parler aux supporters. Je trouve que la scène était extrêmement longue.
Il est désabusé, Hakimi, à ce moment-là.
Franchement, il demande chute, s'il vous plaît, et interruption de match, ok. Mmh. Sanction pour le PSG, pour les joueurs qui n'ont rien demandé. En fait, ils n'ont pas insulté, ils jouent leur jeu. S'il y a un souci avec les supporters, on les sanctionne après. On leur interdit le match comme ils font avec les ultras. Ouais. Ce ne sont pas des chants homophobes, c'est tout aussi grave parce que ça reste insultant, mais c'est le football. Et en fait, au bout d'un moment, stop, quoi.
Mot de la fin, rapidement, François. Non ?
Bah, j'espère juste qu'on va arrêter d'attendre une exemplarité absolue aux supporters. J'aimerais auquel cas, mais je vais donner un exemple qui n'est pas lié au football. Si le Parlement, on avait les mêmes exigences qu'avec les supporters, peut-être qu'on s'en sortirait mieux.
Oui, il y a certains comportements...
Arrêtons de taper toujours sur
le PSG.
Supporters de foot.
A priori, juste cette fois-ci, il n'y aura pas de sanctions, pas de fermeture partielle, amende, sanctions financières. Potentiellement, petite coupure pub, les amis. On se retrouve dans quelques instants pour déterrer un vieux dossier, celui de Neymar et de son histoire au PSG. À tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Sohan, animatrice radio, François, supporter du PSG. Et on va revenir sur l'événement du soir hier chez nos confrères d'RMC dans l'émission Bartoli Time, la première grande interview de Neymar depuis son départ du PSG à l'été 2023. Le Brésilien est revenu sur ses meilleurs moments au PSG, son bilan sportif, les fractures avec la direction et les supporters et ce divorce compliqué avec le PSG. On va écouter un premier extrait, les amis, on en reparle juste après. C'est sur le volet sportif de son aventure parisienne.
Mon expérience au PSG, elle a été bonne et mauvaise en même temps. Très bonne, car niveau football, je pense que j'étais vraiment au sommet de ma carrière. Et mauvaise, car j'ai longtemps et souvent été blessé. Je n'ai pas fait de saison entière, seulement l'année 2020 quand on va en finale de la Ligue des Champions. Et c'était vraiment une très belle année quand j'y repense. Je n'oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon cœur.
Foram lindos esses momentos, então vão ficar guardados.
Première chose, il était au sommet de sa carrière, Neymar, au PSG. Il nous vend un Neymar Prime au PSG.
S'il le dit. Après, bon, c'est ce qu'il a fait avant. Il a quand même gagné Ligue des Champions. Donc voilà,
2015,
c'est un peu particulier.
2017, c'était pas mal aussi.
Après, moi, je suis moins radical que François, je suis sûre, par rapport à Neymar. Mais pour moi, j'ai beaucoup d'affection pour le joueur, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'humain. Pour moi, il est différent de Messi ou d'Mbappé, qui étaient... beaucoup plus dans la provoque, beaucoup plus dans la com, beaucoup plus de « je suis une star ».
J'étais triste par la façon dont on m'a traité à la fin, mais maintenant c'est du passé.
Vraiment la personne, mais aussi son jeu.
Faille, joueur qui a des failles.
Exactement. Qui... Toutes les personnes qui ont des fêlures, moi ça me touche, et il les exprime. C'est pas
un peu plus que Messi ou
c'est
Mbappé.
C'est pas comme un Mbappé qui fait une interview en disant...
Alors, je vais essayer de te donner des arguments, François, parce que je connais ta position. Le côté pragmatique de Neymar au PSG, les stats. 118 buts, 70 passes décisives en 173 matchs, mais également 142 matchs manqués, soit quasiment un match sur deux. Vas-y.
Combien en Ligue des Champions dans les matchs élimination directe?
De matchs manqués?
Non, je parle de buts.
De but, je n'ai pas la stat.
Ça va être compliqué.
Alors, si tu parles de Ligue des Champions, on peut aussi se dire qu'il a emmené le Paris Saint-Germain en quelque sorte en finale. Parce qu'il leur parle de cette finale 2020 et du Final Eight.
En fait, Neymar, c'est un joueur qui fait de la peine. Il fait de la peine parce qu'il avait un talent de dingue. Quand il arrive, on était tous sous le charme. Malheureusement, il a eu des blessures. Je pense qu'il n'était pas heureux à Paris. Est-ce qu'il avait vraiment envie de venir? C'était une autre question.
Moi, je pense que oui.
Oui, non, mais il avait.
Léo Messi, on est d'accord.
Léo Messi aurait jamais dû venir au PSG. Il n'existe pas dans l'histoire du PSG. Mais il est venu en touriste. Une salle de sport pour préparer la Coupe du Monde.
Messi, c'est bon.
Mais Neymar, on a eu envie d'y croire.
Rappelle-toi juste le jour où Neymar arrive au Paris
Saint-Germain. C'est ce que je te dis.
Qui lui souhaite la bienvenue. Et je me souviens Michel Montana qui était sur ce plateau il y a quelques semaines qui nous dit quand même l'arrivée de Neymar, c'est l'un des plus grands moments que j'ai vécu au Parc. Je te dis pas que ça fait toute l'histoire.
Mais j'ai eu envie d'y croire. Mais malheureusement, quand on se projette maintenant, 7 ans après, qu'est-ce qui reste? Oui, c'est un joueur de classe. Oui, il avait un talent. Je pense qu'il avait plus de talent qu'un Mbappé. Mais objectivement, on l'a très peu vu sur le terrain. On a vu beaucoup de frasques en dehors. Moi, si on parle de ces années-là, j'ai envie de retenir des joueurs comme Cavani, comme Di Maria. Mais ça, c'est des joueurs avec des fêlures. Cavani, on oublie, son début au PSG, il est compliqué. Il est sur un divorce compliqué, il revient en retard à l'entraînement.
Je comprends, mais en fait...
Ils ont apporté plus, ils ont apporté au public, ils ont communiqué avec
le public. Tu l'as vu le doc de Neymar, quand il s'est exprimé ?
Mais c'est un enfer à regarder.
Pour moi, c'est un joueur qui a une santé mentale un peu compliquée. Et c'est encore la... Il y a plein de sujets en ce moment sur la santé mentale et des joueurs et des arbitres aussi, c'est sur le tapis. Et pour moi, je vois un joueur en fait qui était mentalement pas bien, en souffrance. Et en fait, au lieu de le blâmer, parce que finalement, les supporters du Paris Saint-Germain, et je me mets dedans, tu siffles quand ça va pas et t'acclames quand ça va bien. En fait,
je suis pas dit
joueur,
de le siffler.
Oui, mais après, il se faisait critiquer après les matchs. Tu crois qu'il est content, lui, il est sur son canapé, il se fait tacler sur les réseaux, il se fait tacler dans les médias.
Il y a un épisode, on devance un petit peu les débats, il y a un épisode qui a beaucoup fait parler, qui a laissé, je pense, pas mal de traces et de rancunes, c'est l'épisode du vrai faux départ en 2019.
Oui, aussi, oui.
Quand Neymar est prêt à mettre, je crois, 20 millions d'euros de sa poche pour retourner au Barça.
Mais il est malheureux. Après, il le dit publiquement. Non, mais il le dit publiquement. Je pense qu'effectivement, il voulait venir, mais il avait encore plus envie de repartir parce qu'il lui manquait, à mon avis, ses socles, il lui manquait une base, et je pense qu'il était extrêmement heureux à Barcelone. Mais il ne faut pas oublier quand même que ça reste un joueur qui est arrivé en héros. Et je fais le parallèle avec Mbappé, qui, je trouve, franchement, sa sortie, elle était horrible par rapport à son arrivée. En fait, ça reste des humains. Hein. Ouais. Ce sont des humains.
Totalement.
On va écouter, François, je reviens vers toi juste après. Deuxième extrait, c'est lorsqu'il évoque son départ du PSG, les rancœurs et les coupables, selon lui.
J'étais triste par la façon dont on m'a traité à la fin, mais maintenant c'est du passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu'ils aient les meilleurs résultats. Je n'ai aucune rancœur envers le club. J'ai juste un peu de rancœur envers les gens qui managent le club. Mais au niveau sportif, c'était le meilleur football que j'ai joué. Je suis donc heureux et j'ai la conscience tranquille par rapport à tout ça.
François, il a la conscience tranquille. Est-ce qu'il a des raisons d'en vouloir à la direction, selon toi ?
Je pense que la plupart des joueurs qui sont partis dans l'RQSI ont des raisons d'en vouloir.
Divorce très compliqué. Cavani,
Mbappé,
pour des raisons diverses et variées, quand même.
Non, mais tous. Donc oui, il a des raisons d'en vouloir. Après, ce qui est compliqué dans une interview, il n'y a pas de... C'est pas un ping-pong, là. Là, c'est il donne sa version, et il n'y a pas un intervieweur en face qui va lui poser des questions, mais... Avez-vous fait des erreurs qui pourraient expliquer que votre relation se soit compliquée ? Malheureusement, voilà.
Il n'y a pas trop d'introspection, effectivement.
Malheureusement, on n'a pas ces éléments-là.
J'aime beaucoup Bartoli, mais c'est vrai que c'était beaucoup dans... T'as été super au PSG, etc. Enfin non, il faut voir plus loin. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de failles, il y avait beaucoup de zones d'ombre qu'elle n'a pas développées davantage. Est-ce que c'était dit là en amont aussi ? On ne sait pas.
Non, mais voilà, je veux surtout pas blâmer Mme Bartoli. C'est déjà très... belle perte d'avoir réussi à avoir cet entretien. Et on ne sait pas ce qui a été coupé au montage ou autre.
C'est pour ça, ouais.
Mais est-ce que c'est son prime ou autre ? Moi, franchement, j'ai vu un joueur virevoltant avec le Barça.
Lui dit qu'il a toujours tout donné sur le terrain. Bon, il met de côté. Effectivement, il n'y a pas l'introspection, les blessures, l'hygiène de vie. Moi, on en parlait tout à l'heure en off. Si on compare à l'investissement de Léo Messi, et je pousse même plus loin, celui de Kylian Mbappé.
Mais Kylian Mbappé, je suis désolé, le PSG a été champion parfois. Et j'ai presque envie de dire, c'est qualifié en Ligue des Champions parfois, parce qu'il était le seul à pousser tout le monde pour gagner les matchs.
Alors, je suis d'accord, oui, non.
Et désolé.
Sur les stats, la dernière saison. Mais non, les stats. Plus rien donné au Paris.
Oui, mais c'est la dernière année.
Alors, franchement, zéro travail défensif. Pour moi, Neymar, c'est celui qui se donnait le plus sur le terrain. Mbappé voulait marquer pour lui. Neymar, il voulait marquer pour les autres. Et c'est ça la différence.
Mais Neymar, quand il était sur le terrain. Mais comme Verratti, j'adore Verratti. Verratti, mais malheureusement, il a moins apporté. Parce qu'on y a la comparaison avec Marquinhos, Marquinhos est sur le terrain.
Et Verratti, il y a une nostalgie.
Non, mais Verratti, même Di Maria.
Énorme nostalgie pour Verratti. J'aime beaucoup Verratti, mais il aurait pu tellement donner plus.
Nostalgie, non.
Non.
Non. Pour moi, il ne manque pas. Mais je n'autorise pas qu'on le blâme, n'est-ce pas, François ?
Juste un dernier extrait, c'est peut-être le plus fort, les amis. C'est celui sur sa relation avec les supporters, avec vous, entre autres. On écoute, on en reparle.
À la première année, elle a été magnifique. J'étais très bien accueilli par le peuple et les supporters français. Les deux, trois dernières années n'ont pas été les mêmes. Ce n'était pas vraiment incroyable la façon dont j'ai été traité. Et je pense que Lionel Messi a connu plus ou moins la même chose. Pour moi, il y a eu de l'injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Maintenant, je n'ai pas de rancœur, mais j'ai été un peu triste de la façon dont j'ai été traité par les supporters, notamment quand ils sont venus chez moi. Ils ont voulu entrer chez moi. Je me suis fait insulter, ils ont voulu me taper. Pour moi, ce jour-là, ils ont dépassé les limites. Notre relation n'était plus respectueuse. Moi, je les ai toujours respectés.
Ils ont été injustes et pour une partie ont été trop loin, les supporters parisiens avec Neymar.
Évidemment, quand ils sont allés chez lui, il n'y a même pas de mots à mettre sur cet événement. En revanche, je pense qu'il y a quand même quelque chose avec les joueurs vedettes que tu prends dans un club, comme Mbappé, comme Neymar, comme Messi. Ils sont tellement habitués à être le héros de leur club, ils sont tellement habitués à briller, que je pense que quand finalement ils voient que des supporters vont acclamer d'autres joueurs comme un Cavani, ils vont se sentir peut-être un peu frustrés, développer une frustration et peut-être que l'ego est touché finalement.
François ?
Ah, déjà, c'est peut-être le seul moment dans l'interview où je trouve qu'il a raison. C'était inacceptable d'aller à son domicile. Il n'y a pas de mots. Maintenant, la relation avec les supporters, elle se crée. Cavani, elle a été compliquée les deux, trois premières années. Et il est parti. Et malheureusement, je pense que tout le monde... toute la lumière ne sera jamais faite sur comment il est parti et comment le club, en fait, l'a dégagé comme un malpropre alors que ce mec adorait ce club.
Neymar, elle a suivi la trajectoire de ses performances sportives, la relation. Elle était très belle comme il le dit.
Exactement. Elle était liée, à minima, elle était liée sur le sportif. Cavani marquait des buts, alors il ratait beaucoup. Et le parc, je trouve, était plus dur avec Cavani qu'elle ne l'a été avec Neymar. Parce qu'avec Neymar, elle rêvait.
Mais Cavani, c'est lui qui courait le plus, je crois, sur le terrain.
Cavani, c'est un modèle.
Mais moi, c'était mon préféré. C'est un joueur extraordinaire. Bien sûr.
Mais Neymar, avec les supporters, Il y a plusieurs cassures, tu en as parlé, le départ, il a vraiment tout fait pour se barrer en 2019, c'est évident que ça a joué. Sauf qu'on se rappelle de son retourné acrobatique en Strasbourg, et étonnamment tout le monde s'est retourné sa verse en deux minutes. Mais en fait, c'est comme d'hab, ça prend du temps. Le supporter, il paye un billet, pour beaucoup, c'est très cher, et il veut à minima voir les joueurs venir le saluer, se donner sur le terrain. Et les supporters ne l'ont pas senti. Par contre, ce qui s'est passé après est inacceptable et ça
je vous parlais d'une petite nostalgie quand même, Neymar. Je voudrais qu'on regarde le résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si Neymar manquait au PSG. Au PSG d'aujourd'hui, eh bien oui, il y a une certaine nostalgie puisque 55% des votants de tête estiment que le Brésilien manque au PSG. 56%. Je suis pas sûr qu'on fasse le même sondage aujourd'hui avec Mbappé qu'on ait ce résultat-là.
Parce que c'est trop frais.
C'est trop frais.
Oui, c'est trop frais. Et surtout, moi, je pense à la différence d'idée, c'est que Neymar n'a pas été hypocrite. Alors qu'Mbappé a été hypocrite avec sa relation avec les supporters et le Paris Saint-Germain. Il voulait partir, il l'a juste pas dit. Neymar l'a dit un peu trop tôt. Voilà.
Bon, les amis, nouvelle coupure pub. On va revenir pour un véritable instant nostalgie. Voilà. Cette fois-ci, les maillots les plus mythiques de l'histoire du PSG seront avec nous en plateau dans quelques instants. Restez avec nous. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Sohan, animatrice radio, François Bessène, supporter du PSG. On accueille tout de suite Gabriel de la boutique Hashtag Paris. Salut Gabriel.
Salut.
L'endroit idéal dans Paris pour dénicher les plus beaux maillots vintage, on en voit déjà derrière toi, du Paris Saint-Germain. Merci d'être avec nous, boutique située sur les Champs-Élysées.
Sur les Champs-Élysées, dans la galerie des
Champs. C'est avant tout, raconte-nous juste rapidement une histoire de famille et de passionné de football.
C'est ça. En fait, mon père vendait ces maillots-là dans les années 90-2000. Donc il avait un magasin où il vendait ces maillots-là et 25 ans plus tard, après le Covid et tout, on a dû se réinventer. Ouais. Et donc du coup, on est reparti sur la passion et on a ouvert ce magasin.
Alors on va faire un grand voyage dans le temps. Grâce à toi, tu nous as amené certaines des pièces les plus rares de votre collection.
C'est ça.
Je te laisse nous présenter la première et je crois la plus ancienne, elle est là. Maillot domicile 77-78, modèle Echter, équipe Montier Pony. Moi, je l'avais complètement oublié celui-là.
Voilà. Wow. Alors je l'ai ramené justement parce que c'est le plus ancien qu'on a. Ouais. On aimerait bien avoir le premier, mais malheureusement, je connais qu'une seule personne qui l'a actuellement. Donc celui-ci, maillot Echter, donc du coup en bleu un peu plus électrique quand même, qui ressemble pas au bleu d'aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Et ouais, l'équipe Montier Pony, c'est mythique quoi. Je crois qu'on l'a eu un an ou deux, donc...
Et magnifique, c'est
ça. Ouais. C'est un également.
Et François, il veut le voler là, ça y est, je le vois.
Ça coûte combien un maillot comme ça?
Ça dépend, parce qu'à l'époque où nous on l'a acheté, ce sera pas le prix auquel il sera aujourd'hui, mais même sur les sites de revente, on peut les voir déjà, ça dépend. Il y en a qui les mettent à 400, d'autres à 700, d'autres à même 1200.
Parlons de plaisir. Parlons de plaisir.
Oui, non, c'est vrai.
Les symboliques.
C'est ça.
Derrière toi, le deuxième dans le temps, alors celui-là, moi je crois que c'est mon préféré, avec le numéro 10 dans le dos, l'autre grand numéro 10 du Paris Saint-Germain, Safet Susic, saison 88-89, sponsor RTL, on a changé d'équipementier. Ça aussi, c'est une pièce également très recherchée, j'imagine.
Ouais,
on le voit derrière toi.
C'est ça. Le matériel utilisé pour ce maillot-là, franchement, c'est magnifique. C'est Adidas, à cette époque-là. Donc après, ils sont passés chez Nike. Mais ouais, celui-ci, franchement, il est exceptionnel. Et franchement, en termes de numéro 10, je me demande s'il ne fait pas partie du top 3 des numéros 10 du Paris Saint-Germain.
On est sur les maillots les plus anciens, ce Anne-François. Est-ce qu'il y en a un qui vous parle encore plus? On va voir celui d'après, tu peux nous le montrer.
Ouais,
c'est le modèle Tour Eiffel, 90-91, celui-là.
Ça.
Ah oui, d'accord.
Alors du coup, celui-ci, je l'ai ramené juste pour que voilà, les supporters comprennent d'où vient ce
oui,
maillot
extérieur. Oui, il y a eu la réédition cette année, le maillot extérieur cette
Exactement,
saison.
Exactement, ouais. Et bon, il y a des petites infos comme quoi là, Total 90 reviendrait l'année prochaine. Donc en fait... On remarque qu'à chaque fois, en fait, les maillots qui font, ça vient de quelque part. Et en l'occurrence, celui de cette année, il vient de la saison 90-91. Donc avec le sponsor Alain Flelou, RTL, franchement, il est magnifique.
Sur les maillots à l'ancienne, François Swann, si vous deviez en piquer un, Gabriel. Moi, je prends le Susic.
Ah,
on va se battre pour le Susic.
Ouais, je pense que là, on va pas être copains. Ouais. Franchement, il me donne bien envie. Hein. Ouais. François, il les veut tous.
Ah, moi, je les veux tous.
François, ce qui est bien, c'est qu'il est venu avec le sien. Alors un maillot, c'est une valeur toute particulière, on fait un petit bond dans le temps, 95-96. Explique-nous pourquoi il a une valeur si particulière.
Eh bah, bien, ce maillot, pour les supporters du PSG, il est mythique. En plus, il n'a pas le sponsor en centrale. C'est le maillot qu'on a porté en finale de la Coupe des Coupes en 1996 contre le Rapid de Vienne, le 8 mai, à Bruxelles. Et en fait, pourquoi j'ai voulu l'amener ce soir, c'est peut-être pas forcément le maillot que je préfère, mais vu que c'est Noël... Qu'est-ce que j'ai envie de souhaiter aux supporters du PSG?
Que le PSG gagne.
Et bah de gagner.
Ouais. Ah bien,
et bah ce maillot, il incarne la victoire et il incarne aussi une chose, notre identité, notre logo, nos couleurs et surtout, il n'y a pas cette barre dégueulasse qui ressemble à un H.
Bip.
Nos amis de Nike, s'il vous plaît, c'est ça le maillot du PSG.
Tiens Quentin, juste celui de la saison d'après, si tu peux nous en parler un petit peu derrière, parce que je vois un nom qu'on connaît bien, un numéro également et puis une signature également.
C'est ça, bah du coup, encore une fois, en top 3 des numéros 10 de Paris Saint-Germain, Rai. Je l'ai ramené celui-ci parce qu'il est dédicacé. J'ai eu la chance de pouvoir le faire dédicacer. Et franchement.
On le voit là, juste derrière toi, le numéro 10.
Un joueur exceptionnel au Paris Saint-Germain, même le maillot exceptionnel. Et c'était la première fois, je crois, qu'il commençait à mettre les noms dans le dos. Donc, du coup, voilà.
Est-ce qu'il y a un maillot qui est plus recherché, plus coté que les autres parmi les maillots mythiques du Paris Saint-Germain?
Le 95-96 de François.
Ouais.
Ça, c'est forcément ce que les supporters veulent. Quand ils en veulent un, au début, en général, ce sera celui-ci. Et après, quand ils font leur collection, ils vont s'étendre à d'autres choses. Mais principalement celui-ci.
Swann, chacun son tour. Toi aussi, tu as un maillot fétiche. On va voir les images. Ouais. Celui de la saison 2016-2017. Et tu m'as dit tout de suite, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on a compris, c'est le maillot Cavani. C'est quoi? C'est l'esthétique du maillot ou c'est le joueur?
Non, c'est le joueur. En plus, cette saison-là, il y a un match qui m'a vraiment marqué. C'était face au Celtic Glasgow. Mm-hmm. Donc, c'était le 22 novembre 2017, même je m'en souviens. On a gagné 7-1. Cavani avait mis deux buts. Et en fait, il a été ovationné. Et surtout, les supporters ont créé une musique pour Cavani. Et la dernière fois qu'ils avaient fait ça, justement, c'était pour Rai. Donc je trouve que c'est vachement symbolique et c'est, pour moi ça représente vraiment la carrière de Cavani, c'était sa meilleure saison surtout. Et moi vraiment...
Alors j'ai regardé 49 buts, effectivement c'est la saison Cavani qui est bon, d'une manière collective un petit peu plus compliquée pour le Paris Saint-Germain puisque on n'en parle pas. Gabriel, on poursuit avec toi. Alors là, pièce d'exception, saison 2001-2002. Moi je vais pas te mentir, c'est pas mon maillot préféré parce que ce n'est pas le modèle Echter, il manque des bandes blanches, mais alors porté par l'une des plus grandes stars, tu vas nous le retourner, de l'histoire du club, porté par Ronaldinho.
C'est ça. Alors du coup, sur celui-ci, c'est 2001-2002, la première saison de Ronaldinho au Paris Saint-Germain. Celui-ci, il fait partie de ma collection personnelle également. Ouais. Celui-ci, je le garderai pour toujours, je pense. Parce que Ronaldinho, au-delà du PSG, c'est un des joueurs qui m'a fait le plus rêver.
Tu sais quel match?
Alors justement, je ne sais pas le match, mais je sais qu'il y a 9 matchs en manche longue où Ronaldinho a joué.
Donc
4 où il a marqué.
Au cœur de l'hiver, a priori.
C'est ça. Ouais. Si on se dit qu'ils ont 2 maillots par match, au maximum 3, on va dire qu'il y a entre 15 et 25 maillots manche longue Ronaldinho comme celui-ci au moins.
Waouh. Ça, en plus, il y a encore la trace là, sur la manche.
L'avantage, c'est qu'il est encore sale du match.
Jamais tu le laves.
Jamais lavé.
Non, jamais. Jamais lavé. C'est un de mes seuls que j'ai comme ça, que je garderai comme ça. Et je fais même attention, contrairement aux autres modèles de mon magasin, à ce que la tache ne parte pas.
Ah bah, tu m'étonnes.
tu fais bien. Ça, tu l'as dit, ça n'a pas de valeur. Ça se vend pas. Et si ça se vendait, ça se vendrait.
Ça, pour donner la valeur de ce maillot-là, il faudrait faire une vente aux enchères avec tous les passionnés de Paris Saint-Germain.
Mais là, c'est
je sais qu'il y a des joueurs, et non des moindres, qui viennent dans votre boutique, qui viennent acheter ce genre de maillot-là, dans la boutique Hashtag Paris.
C'est ça, ouais. On a des anciens joueurs du Paris Saint-Germain à qui on a retrouvé leur maillot. Parce qu'en fait, ils avaient tellement l'habitude de les donner à la fin des matchs ou à des proches ou autres. Ouais. Et aujourd'hui, ils les recherchent et qui savent pas où les trouver.
Quels joueurs viennent à la boutique?
J'ai eu Rabesson Fratana qui est venu.
Ouais.
J'ai eu Paulo César. J'avais eu Kitike quand il jouait au Paris Saint-Germain. J'en ai d'autres hors Paris Saint-Germain.
Des grands fans de maillots collectionneurs. Ils viennent chercher les leurs, mais aussi d'autres maillots.
Ça dépend. Il y en a qui viennent juste pour voir parce qu'ils sont passionnés de football. Et il y en a qui viennent acheter des maillots des légendes qui les ont fait rêver quand ils étaient petits. Ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens.
On va avoir un maillot d'une légende d'ici quelques minutes. On a un dernier maillot du PSG, maillot qui a été réédité tout récemment. Il a une vingtaine d'années. C'est le maillot Louis Vuitton, extérieur saison 2006-2007. Assez controversé à l'époque parce que... Bon voilà, sont pas... François, vas-y, parle-nous du maillot Louis Vuitton.
Bah, je me rappelle du trophée des champions qu'on perd au tir au but face à Lyon avec ce maillot en début de saison. Mais maintenant, les maillots en début de saison, on se dit toujours « Ah, il est pas beau, ah, c'est vrai, celui-là respecte pas l'identité du Paris Saint-Germain. »
C'est le deuxième maillot, c'est le maillot extérieur.
De Paris, c'est le maillot extérieur, ouais. Oui, mais en extérieur, mais on a des très beaux maillots. Ouais. Mais je trouve qu'il a plutôt bien vieilli par rapport à certains. Celui-là, il... En plus, il n'y a pas Oleta dessus, donc j'ai envie de dire, il est forcément iconique.
Alors, je l'ai ramené
par règle des Açores.
C'est ça. Il avait participé à un film dans lequel en fait, j'avais ramené des maillots vintage pour le film. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui, échanger. Et moi, j'ai ramené un maillot pour le faire signer. Et je l'avais aussi ramené, en fait, parce qu'en fait, celui-ci, justement, à l'époque, tout le monde le détestait.
Ouais.
Et en fait, il avait été élu, après coup, des années plus tard, maillot de l'année 2006.
Et c'est vrai, le PSG vient de le rééditer, c'est une pièce de collection.
Il est très, très beau. Hein. Ouais. Bien, j'adore le marron, de toute façon. Moi, je pense que je vais le prendre pour mon père, il va être ravi.
Voilà.
Bah oui, on vous donne quelques idées de cadeaux de Noël pour les fans invétérés des maillots mythiques du Paris Saint-Germain. On va terminer avec ces hors PSG. Mais encore que pas complètement. Maillot porté par une légende du football, Il Fenomeno, on l'appelait à l'époque. Pourquoi il y a un petit lien avec le Paris Saint-Germain? Vous avez vu le nom, Ronaldo R9, signé et porté par Ronaldo le Brésilien, un soir de mai 98, si je ne dis pas de bêtises, au Parc des Princes.
Alors du coup, ce maillot-là, je l'ai ramené justement, parce que c'était la finale Inter-Lazio de l'UEFA 97 au Parc des Princes. Et franchement, je pense que bon, il était déjà connu Ronaldo, hein, mais à ce moment-là, ça, il a vraiment illuminé tout le monde. Après,
c'est juste avant la Coupe du Monde 98, on le connaissait un petit peu, mais pour les plus vieux, François, on s'en souvient. C'est un match où il marche sur tout le monde. Il met un but, il y a une espèce de
sur une pelouse du parc qui est vraiment dans un état déplorable. Oui, oui. Mais surtout, t'as dit 96, en 97, il nous bat à Rotterdam en finale de la Coupe des Coupes,
oui, en marquant le penalty
avec le Barça, et en 98,
oui, en fait, c'est 98.
Il joue cette finale, et
il est injouable.
Allez sur YouTube, regardez, c'est son but.
Oui, là, tu le gardes.
Celui-ci, je le garde, même si que le Ronaldinho. En fait, là, c'est ma collection personnelle.
D'accord, pardon. Voilà.
Tu ne pourras pas le prendre pour ton papa.
Tu disais également en off, avant l'émission, que tu as eu des acheteurs potentiels pour ce maillot-là, et là aussi, il n'en est moindre.
Ouais, alors j'ai eu pas mal de personnes qui voulaient me l'acheter, dont des joueurs de foot. Hein, je ne vais pas forcément citer les noms. Non, je préfère rester
discret. Des très grands joueurs.
Oui, des très grands joueurs.
Ouais. Des ballons d'or.
Exactement. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit que celui-ci, j'allais garder, parce que même si j'en tire, on va dire, un bénéfice, en fait, ça me ramènera jamais un autre maillot comme celui-ci. Et là, ça, c'est personnel. Il fait partie du top 3 de mes joueurs. Ouais. Qui m'ont fait rêver, quoi. En fait, j'ai commencé le football, moi je suis en 95. Donc du coup, en fait, vraiment, là, le premier match que j'ai regardé en entier, c'était du coup Brésil-Allemagne en 2002, la Coupe du Monde, avec sa coupe de cheveux et tout. Franchement, c'est lui qui m'a fait rêver, quoi.
Vous avez d'autres pièces assez dingues aussi dans la boutique Hashtag Paris. J'ai vu du Zidane, du Cristiano Ronaldo. Enfin,
Alors, on reste pas que sur le Paris Saint-Germain. Au début, c'est ce qu'on voulait faire.
La répartition, en gros, entre PSG et reste du monde.
Reste du monde. On va dire que le Paris Saint-Germain, ça, on va dire à peu près 15%, 20%.
Ouais.
Si ce n'est 10, ça dépend.
Oui, c'est,
ouais. Le jour où on est allé en finale avec des champions, voilà, vous doutez bien que ce n'était pas pareil. Mais voilà, sinon, en saison régulière, on va beaucoup plus vendre des clubs comme Arsenal, Manchester. Ou à cette époque-là, on va dire que pour le Paris Saint-Germain, à part Ronaldinho, Rai ou autre, dans les années 90, les gens ne recherchent pas forcément des maillots. Ouais. Alors que les Beckham, les Cantona, les Zidane...
Je crois que Beckham, j'ai regardé votre boutique online, c'est le plus cher que vous ayez dans la collection.
Alors celui-ci, ouais. Celui-ci, c'est pareil. C'est un maillot qu'on dit maillot préparé. Donc du coup, il n'a pas été porté, mais il vient du vestiaire. Et c'est le maillot du centenaire de Manchester United. Donc voilà, pareil, ça, je sais que je ne le retrouverai jamais. Et en l'occurrence, je pense que je ne le vendrai qu'un jour de vente aux enchères, peut-être, ou...
François Sohan, dernier mot, si vous aviez un cadeau de Noël à demander à Gabriel, ça serait lequel, le maillot?
Alors, un maillot, alors je vais faire mon marché, le Paoletta pour mon père.
Le Paoletta? Oui,
ouais, il sera très content.
Avec plaisir.
Un que tu n'as pas, parce que tu en as déjà beaucoup.
Je dirais celui de 1990, parce que c'est mon année de naissance, et que je me dis que ce serait sympa un jour de l'avoir.
C'est quoi? C'est Tour Eiffel, Commode d'Or, non?
Non, c'était THD, ou je sais plus qui était le sponsor central. C'est un maillot qui est pas resté dans l'histoire.
D'accord.
Mais je me dis, bon, voilà.
On s'est régalé. Merci Gabriel.
Ah, merci plaisir.
Vraiment.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Retrouvez tous ces maillots dans votre boutique, la boutique hashtag Paris Galerie des Champs-Élysées. Sans transition, on va passer à l'Omnisport, les résultats de vos clubs franciliens du week-end avec Clément Creusiot.
Maintenant. Pour sa deuxième journée de Coupe d'Europe, le Racing n'a pas réussi à enchaîner après la victoire de la semaine dernière. Défaite 29-7 en déplacement du côté de Sale. Aucun point inscrit en deuxième période par les Racingmen. Pas de quoi se rassurer avant de reprendre le top 14. Défaite aussi du côté de Jean Bouin, où le Stade français s'est incliné 17-28 face aux Saracens. Deuxième match perdu pour les Parisiens en autant de rencontres européennes. Saison galère sur les deux tableaux. Côté handball, c'est aussi une défaite parisienne ce week-end pour la première fois de la saison en Liqui Moly Star League. Sur les terres de son dauphin Nantes, le PSG s'est incliné 31-34. Face à des Bretons survoltés, les joueurs de la capitale n'ont rien pu faire. Avec cette victoire, Nantes prend les rênes du championnat ex aequo avec Paris, mais un tout petit but d'avance au goal-à-verrage. Grand chelem décidément, avec un match perdu aussi pour le Paris Basketball hier après-midi, 84-76 sur le parquet du Mans. Avec ses 24 points, l'arrière américain Tyson Ward n'a pas suffi à sauver son équipe, surtout face à son compatriote Hudgens, auteur de 28 points pour le Mans. Avec cette défaite, les Parisiens perdent provisoirement leur place de leader en attendant le match en retard de Cholet.
Comme Paris, c'est déjà fini. Un dernier petit bonbon, parce qu'on n'en a pas vu, tu ne l'as pas montré celui-là, on n'en a pas vu de l'air Qatari, c'est vrai.
C'est ça, donc du coup je l'ai ramené parce que voilà, c'est le seul maillot avec lequel du coup, le Paris Saint-Germain est allé en finale. On va dire, hein, comme disait François, comme cadeau de Noël, hein, si on pouvait retrouver un jour cette finale de Ligue des Champions.
Et c'est donc, le maillot de Marco Verratti, on le voit. On le voit
à la taille. Avec la signature et tout.
Magnifique, signé par Marco Verratti.
En fait, celui-là, je le prends bien pour Noël. Allez,
merci beaucoup, Gabriel. Merci François. C'est un immense plaisir. Je n'oublie pas Alexis Goudeligian ce soir à l'édition. Je vous rappelle que Coq Paris est dispo en replay, en podcast sur l'appli RMC BFM Play ainsi que sur le site web de BFM Paris. C'était la dernière de 2024. On vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes et on se retrouve pour la reprise en janvier de la Coupe Paris. Ciao, ciao.